On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. On refait le match 18h30, 20h pour débattre de l'actualité football. Bien sûr, il y a toujours plus important que le ballon rond, vous le savez, par les temps qui courent, mais je le répète également. Chaque samedi soir, nous avons envie vraiment de continuer de partager notre passion commune, d'informer, de vous distraire, de vous changer les idées durant votre confinement, avec toujours une pensée évidemment pour les victimes de ce virus et une pensée à leur entourage, au personnel soignant également, pas seulement à tous ceux qui se dévouent pour qu'on puisse continuer d'avancer. Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter @RTLFoot ou sur le 3210. À mes côtés ce soir, David Aiello, bonsoir.
Bonsoir mon cher Christian.
Stéphane Powell, RTL TV5 Monde, bonsoir Stéphane.
Bonsoir Christian.
Florian Gazan, RTL Les Grosses Têtes, bonsoir Florian.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Philippe Sanfourche, chef de la rubrique RTL Foot, bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Baptiste Durieux qui relaiera tous vos messages sur les réseaux sociaux, bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Au sommaire messieurs, un salut amical ce soir à Robert Herbin pour débuter cette émission. Roby en proie actuellement à des soucis de santé. Tous nos encouragements à celui qu'on surnomme le Sphinx. Jusqu'à 19h30, il s'en passe de belle entre les dirigeants français qui annoncent un retour à la normale le 11 mai, qui semblent avoir réglé une partie des droits TV, mais qui ne peuvent plus se supporter. Le foot ou le foutoir ? Question annexe, c'est qui le patron ? Nous parlons également de Jean-Michel Aulas, privé peut-être de Coupe d'Europe et qui menace d'aller devant les tribunaux, de Noël Le Graët qui veut réattaquer les compétitions par sa Coupe de France, de l'UEFA qui subitement fait profil bas, de Roxana Maracineanu à qui on fait sans doute, ou pas, vous nous le direz, un mauvais procès. Et puis jusqu'à 20h, Mercato, pendant la crise, les grandes manœuvres, est-ce que c'est pas un peu obscène? Le foot amateur, victime d'une injustice, et des footballeurs dépressifs, de qui se moque-t-on? Vous écoutez RTL et vous avez bien raison, à tout de suite, page de publicité.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Stéphane Powell, David Aiello. Vos messages sur les réseaux sociaux relayés par Baptiste Durieux. Messieurs, avant d'attaquer le plan de résistance, un amical salut, si vous le voulez bien, Robert Herbin. Le Sphinx, c'est son surnom. Il est malheureusement hospitalisé actuellement. Rien à voir avec le coronavirus. Selon nos confrères du Parisien de l'Équipe, il souffre de problèmes cardiaques et respiratoires. Courage à lui. Il en a connu d'autres, hein, Robert Herbin. C'est un formidable battant. Et puis, pour l'encourager à se remettre sur pied, eh bien, j'avais envie de faire appel pour démarrer cette émission à deux belles signatures de l'époque des Verts, années 70, finale de Coupe d'Europe 76, Dominique Grimaud et Patrick Mahé. Eh oui. Là, ils ont écrit
Bonjour les amis.
Bonjour, ça c'est Dominique.
Salut,
bonjour
Doumé.
Bonjour Patrick.
Salut Patrick, salut. Alors, Doumé, tu es à Noirmoutier, forcément.
ne racontez
et
là, pas.
Moi je suis en Bretagne, évidemment, hein, Christian.
L'un en Bretagne, effectivement, l'autre à Noirmoutier. Vous nous raconterez votre confinement. Loin. Vous nous raconterez votre confinement un autre jour. Messieurs, vous êtes un peu les frères Siam. Moi, j'ai envie de dire, de la littérature sportive. Dominique consulte également pour la chaîne L'Équipe. Il est écrivain. Patrick, c'est l'ex-rédacteur en chef de Paris Match, notamment, l'ancien patron de Télé 7 jours. Il écrit des bouquins, il n'arrête pas. Messieurs, ces problèmes de santé ne vous laissent sans doute pas indifférents de Robert Herbin. Il va s'en sortir, notre Roby. Votre Roby à vous, des années vertes. Qui veut commencer?
À toi, allez, Dominique, à toi.
Allez, Dominique Grimaud.
Bah bien évidemment qu'on pense à Roby, qu'on connaît depuis, j'allais dire depuis toujours, mais oui, presque. Moi, le premier souvenir que j'ai de Roby, c'est une finale de Coupe de France en 70, Saint-Étienne-Nantes, 5-0 pour les Stéphanois, et Roby est capitaine de l'équipe. Donc je l'ai vu jouer, et avec Patrick, on l'a vu évidemment arriver en 72, il a 33 ans, pour entraîner ce qui allait devenir le phénomène français du football, c'est-à-dire les Verts. Voilà, donc Roby, c'est un compagnon de route, c'est un fidèle, c'est un taiseux, on le sait, on va en parler, c'est un silencieux, il cultive sa solitude comme un art, mais en même temps, c'est un être qui nous est très très cher. Vraiment.
C'est un taiseux, mais c'est un battant également, Patrick Mahé, c'est un compétiteur.
C'est un très grand compétiteur à tous les niveaux et dans tous les sports. Moi, je me souviens l'avoir vu jouer, par exemple, au tennis, Il faisait équipe souvent avec Jacques Santini, c'était les deux Italiens d'origine, Platini et Santini, contre Herbin. Et Herbin jouait avec Lopez. Il y avait Lopez, Herbin d'un côté, Platini, Santini de l'autre. Je peux vous dire que c'était des matchs au finish. Hein. Il y avait vraiment des revers de fond de cours qui faisaient mal. Quoi. Et dès qu'il n'avait pas gagné, c'était terrible. Quoi. Il allait à fond. Mais moi, les souvenirs que j'ai de lui, en fait, et Dominique va aussi être proche de moi à ce niveau, c'est une époque où nous, journalistes de sport de l'époque, avions beaucoup de chance. C'est-à-dire celle où nous étions dans les vestiaires juste après le match. Et là, on voyait, par exemple, Robbie, donc, avec ses hommes. Il était dans son peignoir de couleur, et les pieds dans des sandales posées sur un radiateur. On faisait cercle autour de lui, pendant que les joueurs pataugeaient dans leur bain, par exemple. On était là et on recueillait ses paroles. Alors, j'aime autant vous dire que recueillir des paroles de Herbin, c'était quelque chose. Parce qu'il avait des phrases couperets, des phrases de sentence.
À l'époque, c'était, mais c'est toujours le sphinx. Robert Herbin.
Ah bah le sphinx, oui.
Mais pas spécialement parce que...
Le sphinx, c'est pas seulement parce qu'il était un taiseux, c'était parce qu'il avait une attitude, c'est vrai, un petit peu distante aussi par rapport aux gens. Et puis alors les phrases, je sais plus ce qu'il disait, mais par exemple, des trucs... On lui posait une question. Dis donc, aujourd'hui, un tel...
Dominique Grimaud.
On faisait les conférences de presse, donc il y avait plein de journalistes, et il y avait beaucoup de journalistes un petit peu impressionnés par sa personnalité. Et à la première question, le jeu pour lui consistait systématiquement à faire répéter la question pour que le journaliste parle un peu de son pouvoir. Et il disait pardon.
Et l'autre pardon. Mais il disait aussi, et il disait Dominique aussi, par exemple, sur une question simple. Que pensez-vous du jeu d'un tel? Est-ce qu'aujourd'hui il a pété un peu en dessous des autres? Et avec son regard métallique, il vous fixait et il disait « C'est vous qui le dites ». C'est lui le premier qui a inventé cette formule reprise 100 fois après pour se débarrasser d'une question gênante. C'est vous qui le dites. Et ça ne mettait quand même pas tout à fait à l'aise. Hein.
Bon, Robert Herbin, c'est également les poteaux carrés, c'est Glasgow, c'est la finale 76. Mais avant cela, c'est parce que c'est le sphinx également, Robert Herbin. C'est parce que quand il y a le troisième but qui qualifie l'AS Saint-Etienne face au Dynamo de Kiev, Patrick Maher, Dominique Grimaud, il reste impassible.
Il reste de marbre.
Oui, absolument. Voilà. Il reste de marbre. Il était intransigeant avec lui-même, avec les autres. On l'accuse encore d'une espèce de rigidité, ce qui est faux, parce qu'il savait, il sait. Il sait rire, il sait sourire. Moi, c'est le premier, en fait, ce que j'ai envie de dire de Robbie, c'est que, alors que les Français chantaient qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts, il y a eu tellement d'exploits, Geoffroy Guichard, lui, quittait le stade, regagnait sa maison, et que faisait-il? Ben, il écoutait Mahler, Gustave Mahler, toute la nuit.
Exactement.
Alors, pendant que la France chantait les plus forts, c'est les Verts.
Je puis vous raconter ça.
Après Glasgow. Oui. Après Glasgow, Dominique, tu sais, après Glasgow, il y avait une tempête inouïe sur le ciel écossais qui était tombée sur Hampden Park, mais pratiquement à l'instant final du match, coup de sifflet final, et dans le bus qui ramenait les joueurs, le chauffeur n'avait rien trouvé de mieux que de passer à la cornemuse un énorme Amazing Grace. Et il m'avait dit après, Amazing Grace, ça m'a impressionné, ça m'a bluffé. Et je lui avais rapporté d'Écosse un disque à la cornemuse d'Amazing Grace qu'il écoutait en boucle tout seul chez lui.
Il adorait la musique. Incroyable. Il adore la musique. Je peux vous confirmer d'ailleurs cette anecdote, c'est que dans une période un peu moins souriante, la fameuse caisse noire de la AS Saint-Etienne, j'étais jeune journaliste, mais j'avais de sacrés camarades à mes côtés. C'était Sacco Mano pour Europe 1 et Jacques Vendroux pour France Inter. Et nous étions un jour allés lui rendre visite très tard sur les hauteurs de l'Etra, là où habite... effectivement, Robert Herbin est là, dans son canapé, en train d'écouter du Mahler, effectivement, imposant.
C'est là qu'habitait aussi Pierre Garonner.
Exactement, et on lui avait quand même
Mahler,
fracassé.
Wagner, et du Brel.
Mais Jacques Vendroux, qui avait un problème avec son permis de conduire ou avec le véhicule, lui avait fracassé son son portail, parce que cet hiver-là, il y avait un gel pas possible, et une marche arrière incontrôlée, et le portail de
Jacques Vendroux avait déjà réussi l'exploit de lui faire descendre les Champs-Élysées en renonçant.
C'est vrai. Bon, messieurs, en tous les cas, on espère très vite retrouver évidemment Robert Herbin sur les hauteurs de l'Etra, pas loin du centre d'entraînement. D'ailleurs, c'est là aussi que s'entraîne les Saint-Etienne.
Tout à fait à côté,
bien sûr.
On lui souhaite plein de choses. Force à lui, n'est-ce pas, messieurs?
On l'embrasse, Robbie.
Allez, on embrasse Robbie.
Et...
Allez, Robbie, et on vous salue bien, les copains.
Et à très vite. Tiens, vous nous préparez un ouvrage sur Marcel Sanon.
Mais on en a parlé pas plus tard que la semaine dernière, Dominique et moi. Ouais, ce n'est encore que l'esquisse d'un projet.
Sur
Ah, bah oui, forcément, sur le foot.
Ah oui, non, mais là, il y a un ouvrage qui va sortir très bientôt là, sur la boxe, non ?
Ah, moi, non, c'est pas un ouvrage. C'est-à-dire que je m'occupe des numéros hors série de Paris Match.
D'accord.
Et Dominique et moi, bah, nous faisons notre retour ensemble dans ce numéro qui paraîtra le 14 mai. Et le 14 mai correspond à quoi ? Correspond encore à la date de la finale de Glasgow en 76. Eh bien, c'est consacré à Piaf et Cerdan sur les secrets d'amour.
Ah,
Piaf
formidable.
Et Cerdan, secrets d'amour. Et Dominique et moi collaborons ensemble à ce numéro.
Formidable.
Les secrets d'amour, c'est devenu ça.
Merci beaucoup, Dominique Grimaud. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vais vous passer une autre sorte de musique. Salut Patrick Mahé, salut Dominique Grimaud. Un petit mot en ce studio. Allez, force à Robert Herbin. Hein. C'est un battant, c'est un compétiteur.
D'autant qu'il a quand même révolutionné quelque part le football français. Il faut se rappeler que dans les années 70, la France, depuis 58, ne gagne rien. Enfin, déjà en 58, on ne gagne rien, mais au moins on va en demi-finale de Coupe du Monde. Et entre-temps, entre 58 et les années 70, il ne se passe rien dans le football français. Et c'est lui qui, avec les Verts, impulse la révolution.
Stéphane Poels.
Ça va vous faire rire. Je suis né en 68. Et donc, quand je suis petit garçon, j'ai 10 ans. Vous savez, quand on est en Belgique, football français, à l'époque, c'était quelque chose, quoi. Et les Verts, c'était quelque chose. Et le premier match que mon père m'a laissé regarder, c'était contre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était contre Aris Salonique. Et il gagne 4-1. À domicile, et c'était un chaudron, parce qu'il y a ce fameux chaudron.
Bien sûr.
Et c'était, je suis allé chercher ce matin parce que je me rappelais plus vraiment les buts. Platini, Larios, Lopez et Lolo Rousset, avec qui j'ai travaillé. Et les Verts, c'est un peu, et Monsieur Herbin, c'est un peu comme Gilbert Grèce. C'est des mecs, je sais pas pourquoi, pour leur charisme, leur physique. T'es petit garçon, t'as 10 ans et t'as le poster d'Herbin dans ta chambre. Tu sais pas pourquoi, mais parce que le mec, il en impose.
Florian Gazan.
Bah, pour moi, Robert Herbin, c'est l'album Panini, c'est les vignettes. Pour moi, c'est le 12e joueur. À cette époque-là, Saint-Etienne, il jouait à 12, en fait. Il y avait Léon sur le terrain et Robert Herbin, pour moi, il était aussi important. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il a été le seul et qu'il est le seul entraîneur moderne du football à avoir marqué un but en compète. Je crois qu'en 75, Saint-Etienne est largement champion. Il y a un dernier match à jouer. Il s'est mis sur la feuille de match. Il a marqué un péno. Donc, il a un but à son compteur d'entraîneur.
Après, il faut dire aux auditeurs que Florian Gazan est resté bloqué dans les années 70-80 parce qu'il a un suite avec Goldorak.
Oui, ah ouais, c'est 80, ça plutôt.
C'est 80, ça, ouais.
C'est les années 80.
Capitaine Flamme la semaine prochaine.
La naissance de Goldorak, c'est pas les années 70.
Le spécialiste.
Robert Herbin,
non, Robert Herbin, effectivement, c'est souvenirs de. C'est presque rock'n'roll, en fait. C'est les souvenirs des années 70. C'est cette tignasse là, de Jackson 5 avec ce maillot moulant des Verts. Et puis, c'est surtout la attachement, un football qui n'existe plus, une histoire avec un club, c'est-à-dire qu'il a été joueur, il a été champion en D2, champion en D1, et puis sa carrière de joueur, elle s'arrête net, en fait. C'est-à-dire que le président Rocher, il a 33 ans, il décide de ne pas renouveler Albert Batteux à la tête de l'équipe, et là, il va voir Robert Herbin, il lui dit, bon, bah, t'étais joueur, maintenant tu vas être entraîneur.
Plus jeune entraîneur à l'époque, 33 ans.
Et là, il aurait bien fait une saison ou deux, bah non, en fait, et puis il accepte, parce qu'en fait, c'est sa maison. C'est
après,
sa
il est parti à Lyon, mais ça s'est moyennement passé, et puis au Red Star aussi, il a entraîné Restart,
il est fini,
et vous, Christian Lillet, vous n'avez pas une anecdote exceptionnelle parce que vous l'avez côtoyé.
Ben non, c'était mon anecdote. Ben,
c'était celle-là, le portail. Merci Jacques Vendroux. Merci Jacques.
Les réseaux sociaux, Baptiste Durieux.
Beaucoup de messages, évidemment, comme celui de Patrick. Tous mes voeux de rétablissement rapide à Robert Herbin, ancien joueur et meilleur entraîneur de l'histoire des Verts. Message de Cédric. Je vais avoir ici une très forte pensée pour Robert Herbin, emblème du peuple vert. Message de Pascal également, peuple vert, amoureux fou de la SSE et du football. Ayons tous une pensée pour notre entraîneur mythique, notre Robin, notre Sphinx. Et puis le message de Romain, vous êtes une légende du foot français et souhaitons que vous remportiez ce match le plus important de votre vie.
Monsieur Herbin, force à vous.
Les vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Tous en cœur, nous chantons. On est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leur main. C'est juste. juré. Allez,
18h48, allez. On fait le match avec David Aiello, Stéphane Powels, Florian Gazan, Philippe Sanfourche et vous tous qui nous écoutez évidemment, qui nous envoyez vos
comment
vos
il s'appelait Laurent Rousset, c'était l'ange vert. Comment il s'appelait?
Ah non, c'était
l'ange vert, c'est
Rocheteau. Et, ouais. Et comment on l'appelait? Rousset était le plus jeune. Non, il avait 16-17 ans.
Paganelli.
Parce que Lolo, il a été blessé après. On a en équipe de France.
Rousset, Paganelli aussi.
C'est Paganelli aussi. C'est loin ça.
18h49.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Alors, le plat de résistance, le foot ou le foutoir, messieurs? Le foot ou le foutoir? Alors, je vais vous livrer les dernières informations RTL. Hier, ça, c'est pas une info, bureau de la Ligue, 4h30, ça a duré. Nos infos, véritable foire d'empoigne entre les présidents. Le très policé Nasser El Khelaïfi vociférant à l'encontre de certains présidents. Nos infos toujours, Olas, Sadran, qui défendent encore... Devinez pourquoi ? L'idée d'une saison blanche.
Ah, devine.
Didier Quillot, DG de la LFP, que certains aimeraient bien renverser. Au final, chacun avance avec son idée, pense avoir raison, et le boss, à distance, eh bien, reste Noël Le Graët, car sachez-le, je vous le dis, c'est l'homme fort, et rien ne se fera sans lui, et actuellement, il compte les coups avant de ramasser la mise. Le football ou le foutoir ?
Ouais, écoutez, j'ai juste dit une phrase et je vais laisser terminer puisqu'on l'a préparé, vous savez, c'est un duo avec Florian. C'était pour rire. Non, c'est pour rire.
Roulement de tambour.
Bah, je lui ai dit c'est un sacré bordel et Florian il a rajouté
un bordel sans solution surtout.
Ah, c'est pas mal, vous êtes au point.
Ouais, bon. Bah, c'est un peu ça. C'est pas génial mais c'est un peu ça.
Si, il y a des solutions monsieur. Non, retour à la normale le 11 mai.
Non mais il y a pas aucune bonne solution Christian. Le problème il est là, c'est que à la rigueur il faut tirer à pile ou face parce que toutes les solutions, il y en a aucune qui soit bonne. Elles sont toutes plus ou moins pas bonnes, plus ou moins pires. Donc dans ces cas-là, jetons une pièce 27e, 28e journée. Mais il n'y a pas de solution. De toute façon, on sait bien que la grande famille du football, voilà, c'est la réunion de famille, on règle les comptes, on a bu un petit coup de trop, il y a tonton Gégé qui est sous la table et c'est parti. Et là, chacun va défendre ses intérêts parce que le foot reste un sport individuel, mine de rien.
Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de ligne de conduite. Ça veut dire qu'aussi bien que ce soit chez les pros ou chez les amateurs, on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas de ligne de conduite, c'est chacun défend sa tartine. Et puis surtout, il y a des gens, vous en venez d'en parler avec M. Olas et d'autres, qui forcément, eux, ils veulent une solution parce qu'ils ne pensent qu'à leur pomme et à leur club. Quelque part, c'est peut-être aussi. Ça peut être compréhensible, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est quoi la vraie solution, Christian? Est-ce que c'est une saison blanche?
Je suis là pour vous poser des questions.
Mais moi, je n'ai pas la. Eh bien, je vais vous dire un truc, j'ai souvent la réponse à tout, mais je ne l'ai pas. C'est quoi la bonne solution? On fait la saison blanche ou bien on fixe aux Pays-Bas, vous avez vu que.
Arrêt Buffet.
Voilà, terminé. L'Ajax en Champions League et AZ Alkmaar.
On va y revenir.
Voilà, mais donc c'est fou, quoi. C'est fou.
Bah, ce qui est très simple d'ailleurs et assez flagrant, c'est que pour parler justement des Pays-Bas, ou même si la Belgique, c'est pas encore totalement terminé. Ouais, en fait, tu prends une carte de l'Europe, tu regardes le montant des droits télé et en fonction, tu vois jusqu'à quel point on fait en sorte d'essayer de terminer les championnats ou alors on a une forme de capacité à regarder les événements et à dire ça n'est pas possible. Là, parce qu'il y a plusieurs sujets. Pourquoi ça dure 4h30 un bureau de la Ligue? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets. Il y a tous les sujets qui sont les plus importants, on a envie de dire quand même en ce moment, c'est de savoir dans quelles conditions la reprise va pouvoir se faire d'un point de vue sanitaire. Et là, pour l'instant, on connecte les grandes lignes du protocole qui est travaillé, mis en place aujourd'hui par les médecins de la Ligue et de la Fédération. Il faudra que tout ça soit mis en musique avec le protocole du gouvernement annoncé la semaine prochaine. Donc tout ça, il y a beaucoup de questions, il y a peu de réponses et finalement le seul truc sur lequel on peut s'écharper, une fois que les droits télé sont aussi, on va en reparler, un tout petit peu réglé, on est loin d'avoir tout réglé, mais un tout petit peu, eh ben c'est qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas finir le championnat? Et là, c'est évident qu'il n'y a pas de bonne solution et que chacun voit midi à sa porte, on ne peut pas l'empêcher.
Et là, il y a une actualité, messieurs, qui a quand même refroidi ces présidents de la Ligue du football professionnel. C'est le cas du Montpellierain Junior Sambia, qui les a vraiment sérieusement perturbés. Avec nous en ligne, Frédéric Guéra, l'agent de Junior Sambia. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir, c'est Sambia.
Sambia, oui, j'ai Sambia la première fois et Sambia la deuxième fois. C'est
dans la langue
qui a chauffé. Frédéric Guéra, d'abord, on a envie de demander des nouvelles de votre joueur, Junior Sambia. Comment va-t-il ce soir?
Donc, ils ont arrêté, ils ont, comment dirais-je, il faut que je retrouve le fil. Ils ont arrêté l'assistance respiratoire. Donc après, le processus est long. Et pour le moment, il respire sans... Il n'est plus dans le coma. Le protocole qu'ils ont mis en place hier soir, qui était de le laisser se réveiller visiblement continue. Donc, on va sans doute vers, on l'espère, des bonnes nouvelles.
On peut considérer que lentement mais sûrement, son état de santé est donc en train de s'améliorer.
Il est toujours forcément sous surveillance, comme toute personne qui a eu ce satané virus et qui commence à... Voilà, il commence à respirer seul, donc c'est déjà une très bonne chose.
Frédéric Guerra, ce qui est incroyable, c'est qu'il a été une première fois testé négatif avec une gastro-entérite et une seconde fois testé positif.
Mais bon, enfin, après, moi, je ne suis pas médecin,
bien sûr.
Mais de ce que j'ai entendu, visiblement, ce n'est pas le seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans ce virus, beaucoup de renardises, il semblerait, quoi, parce qu'effectivement, il a été testé négatif et ensuite positif. Donc, il y a des choses. Je fais comme tout le monde. J'écoute, je suis et j'en apprends tous les jours au travers de ce qu'on nous dit. Mais voilà, il a fait partie de ces cas qui ont été négatifs puis positifs.
Stéphane Pauwels.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu. Petite question. Oui. Ton comportement en tant qu'agent, ben forcément, il n'y a pas que le métier de faire les transferts, il y a aussi le bien-être de son joueur et d'être à ses côtés. C'est quoi l'attitude du club? Comment ça se positionne quand on est agent pour avoir les liens, les relations?
Le club me tient informé dès lors que le médecin du club a des nouvelles. Ils tiennent informé aussi directement la famille. Et
ça se passe bien.
Enfin, franchement, au moins, sincèrement, il y a de l'humain dans ce club. C'est un club, on le savait tous que c'était une dimension familiale, mais dans ce cas précis, ils le prouvent vraiment. Ils sont vraiment affectés et ils donnent les nouvelles au fur et à mesure qu'ils les ont. Et après, l'agent que je suis, ben, effectivement, je peux pas appeler l'hôpital parce que sous prétexte que on est l'agent et on dérange personne, on essaye de savoir le maximum, tout en rangeant son frein à 300 km de l'hôpital. Mais de toute façon, avons-nous un autre choix que celui-là? On n'en a pas d'autre, donc on apprend vraiment la patience et puis, on vit l'angoisse que vit la famille, quoi, forcément.
David Aiello.
Frédéric, on rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'agent de nombreux joueurs en France depuis plusieurs années. Comment cette nouvelle, du coup, est accueillie par les joueurs? Parce que peut-être que les joueurs, quelque part, de par leur âge, de par leurs conditions physiques, pouvaient pas se sentir invincibles, mais peut-être se sentir privilégiés par rapport à cette terrible maladie. Là, on voit que ça touche un joueur de 23 ans, qui est en pleine force de l'âge, qui est en pleine parfaite condition physique. Comment est-ce que les joueurs accueillent cette terrible nouvelle?
On peut parler des joueurs, mais on peut peut-être parler de tous les jeunes de cette génération-là. Effectivement, ils se sentent tous invincibles et d'un seul coup, ça leur tombe dessus. Alors, les joueurs, effectivement, j'écoutais votre émission, vous parliez de reprise, pas de reprise. Il y en a qui sont très, très, très inquiets parce qu'ils se disent, on joue avec des masques, on veut bien, mais tacler à 3 mètres, ça va être difficile. Dans tout ce qui se passe, je crois que ce qui angoisse le plus tout le monde, c'est l'inconnu. Et lorsqu'on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire, on est à peu près rassuré parce qu'on sait qu'on a le potentiel pour le faire ou pas. Et ces gens-là, effectivement, ils ont des poumons jusqu'au bout des orteils. Ce sont des sportifs de très haut niveau, comme dans plein de disciplines. Et ils se sentent invincibles, mais au final, on a affaire quand même à des gens responsables qui se posent vraiment des questions en se disant je vais reprendre sur le terrain et si mon coéquipier est là, et comment on voyageait dans les avions, les distances de sécurité dans les vestiaires, à huis clos, allez, c'est le moindre mal. Mais comment on fait pour jouer au football détendu? Et ensuite, il y a aussi l'inactivité, les blessures qui peuvent apparaître. Parce que finir un championnat le plus vite possible, ça veut dire jouer souvent. Et normalement, ils sont dans la plénitude de leur forme à cette époque de l'année. On le voit par les... On devrait être aux demi-finales de Champions League. Donc, on voit bien que ce sont des matchs où il y a une intensité énorme. Les matchs, ça va donner quelle intensité?
quelle intensité.
Ma dernière question, Frédéric Guerra, c'est pas la moins importante, justement, et à l'aune de ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de faire redémarrer le championnat, de faire jouer les 10 dernières journées en l'état actuel des choses?
Je ne sais pas, je pense qu'il y a un syndicat de joueurs qui s'en occupe, mais cette profession va être sinistrée sans doute à cause du virus, mais en tout cas, alors c'est pas rassurant, mais ce sera pas la seule. Donc, le faire jouer, avec quelle garantie? C'est que le protocole à écrire et à mettre en place, il ne doit pas être simple. Et je plains vraiment. Bon, maintenant, je vous ai entendu, moi, sur si jamais la compétition devait s'arrêter, je pense qu'il y avait une idée qui avait été soumise par la fédération italienne, qui était de faire une saison l'année prochaine à 22 clubs, faire monter 2 clubs de Ligue 2, et que l'année d'après, il y en aurait 4 qui descendraient. Ça peut être une solution. Maintenant, si on raisonne Champions League, j'ai une petite idée, si vous me laissez le temps.
Eh bien, ce que je vous propose, Frédéric, c'est de vous reprendre derrière les informations de 19h. En êtes-vous d'accord?
Oui, oui, si vous voulez.
Restez avec nous.
Une idée pas mal.
Restez voilà. Avec nous, Frédéric. Une pause, les informations de 19h. Retour à On fait le match un peu exceptionnel avec Frédéric Guerra, agent de joueur et agent de Junior Sambia, évidemment, hospitalisé actuellement. 19h.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match jusqu'à 20h avec David Aiello, Stéphane Powels, Florian Gazan, Philippe Sansfourche, Baptiste Durieux qui relève vos messages sur les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot bien évidemment. Et nous étions avant les informations de 19h avec Frédéric Guerra, agent de joueur, agent de Junior Sambia qui est hospitalisé coronavirus. Vous nous avez dit Frédéric que les soignants, le personnel soignant avait arrêté l'assistance respiratoire mais que le processus évidemment serait long. Il n'est plus dans le coma, on va donc vers de bonnes nouvelles, on l'espère. En tout cas, il respire seul, c'est ce que vous nous avez dit également, c'est une bonne chose. Merci en tout cas pour ces nouvelles rassurantes, Frédéric. On vous posait la question de savoir également si, en l'état, il fallait, vous pensiez, vous avez sans doute une idée, reprendre le championnat. Donc c'est un peu compliqué concernant la Ligue 1, d'émettre un avis à l'heure qu'il est, car personne ici autour de cette table, et vous également, n'êtes médecin. Mais vous aviez une suggestion également pour le calendrier Ligue des Champions. Alors, quelle est cette suggestion, Frédéric Guerra?
L'UEFA pourrait très bien faire ce genre de choses. C'est retenir les 16 clubs qui étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, on annule le match PSG-Dortmund, le match aller Olympique Lyonnais-Juventus, et on reprend ces 16 équipes. Alors, j'ai regardé que si tous les championnats européens s'arrêtaient, sur ces 16 équipes, il y en a exactement 11 qui seraient déjà qualifiés en Champions League. Donc, il resterait plus que 5 clubs à repêcher, dans lesquels il y aurait Lyon, donc ça ferait le bonheur de l'Olympique Lyonnais, Naples, qui n'est pas en Champions League dans son pays pour l'instant, Atlético Madrid, Valence et Chelsea, il me semble. Donc, ce qui ferait que pour Lyon, pour la France, on pourrait jouer avec 4 équipes, on peut donc Paris Saint-Germain, Marseille, Rennes et Olympique Lyonnais. Il faut, alors après, c'est à l'UEFA de composer les poules et de calculer comment ils peuvent arriver à faire huitième, quart, demi et finale. Mais de repêcher ces 16 clubs qui étaient encore en lice au 1er janvier, alors que le virus était en train de naître, ne semble pas idiot parce que, voilà. Et pour les championnats, l'idée italienne de faire monter 2 clubs de Ligue 2, faire un championnat à 22 et que l'année prochaine, il en descendrait 4, pourquoi pas, c'est une façon de s'adapter sans faire trop de mécontents.
Alors ça fait beaucoup de matchs en Ligue des Champions à et remettre au goût du jour.
Si j'ai bien compris, ça veut dire en fait faire 2 éditions en une, c'est-à-dire reprendre, repêcher ceux qui étaient encore en course cette année et démarrer une nouvelle Ligue des Champions avec ces cinq
clubs supplémentaires, puisque 11 d'entre eux le sont naturellement si les championnats s'arrêtent.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vainqueur pour l'année, pour l'édition 2020, du coup.
Il n'y aura pas de vainqueur pour l'édition. Peut-être que ces 5 clubs repêchés en repêchant un 6e, ça ferait une poule supplémentaire. De celle-là, au lieu qu'il y ait 2 qualifiés, il n'y en aurait qu'un. Bon, après, c'est à l'UEFA de plancher sur les
clubs. Potentiellement, vous lésez quand même le Paris Saint-Germain, mais pas seulement le Paris Saint-Germain.
Les clubs qualifiés en quart de finale. Et puis l'autre question quand même qui se pose, c'est quid des clubs des petits pays, entre guillemets, puisqu'on ne va pas faire une Ligue des Champions non plus à 96 clubs.
Il n'y en a pas des tonnes.
Non,
si on se retrouve avec 4 clubs français, ça dépend d'autres petits pays.
Vous reprenez exactement les mêmes conditions que l'édition 2019-2020. Et vous rajoutez 5 clubs qui sont dans...
Mais à la place de qui,
moi, je trouve que l'idée, elle est assez intéressante. Mais on va
c'est pas à la place de non. qui, c'est en plus...
Frédéric, l'idée est intéressante. Ouais, comment on va équilibrer les poules? Et puis deuxième chose, on va en revenir chaque fois à la même chose, c'est le calendrier. C'est comment on va placer ces matchs. C'est moi, je veux bien. L'idée, elle est intéressante. Tu n'as pas la place, Frédéric, tu n'as pas.
Et il va falloir prendre sur les rassemblements internationaux.
Ouais.
Il va falloir prendre de la place là-dessus, bien sûr, parce que ça rajoute des matchs. Il y a 22 clubs, c'est évident. Et ça rajoute des matchs pour les clubs UP en Champions League. Mais c'est une façon aussi de sauver des recettes. Peut-être jouer plus souvent. Là, quand on voit sur les 16e, par exemple, ça joue tous les 15 jours, peut-être que là, il y a de la place pour jouer. Enfin, réaménager les calendriers, sincèrement, je crois que c'est pas bien.
Enfin, vous le savez mieux quiconque, là, et pour cause, en ces circonstances pas faciles pour vous, Frédéric, c'est aussi de trouver les dates pour jouer. C'est-à-dire que là, on n'en est même pas à trouver des dates pour jouer, on en est à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer.
Par contre, si vous arrêtez déjà une polémique en disant 5 clubs sont repêchés, donc, qui étaient encore en lice, mis à part, je crois, Dortmund, qui était éliminé, il y avait Liverpool, d'éliminer, mais il n'y avait pas grand monde. Donc,
c'est assez intelligent. Je trouve franchement que c'est intéressant.
Ça, c'est une idée qui pourra ressortir du bois une fois qu'on aura acté le fait qu'on ne peut pas terminer la Ligue des Champions cette saison.
Que vous ne pouvez pas terminer la Ligue des Champions toute seule, ou même que les championnats devraient s'arrêter.
Et qu'on se sera assis sur aussi les droits télé, parce que c'est aussi ça. C'est pour ça que l'UEFA veut aller jusqu'au bout de cette édition. C'est encore une fois pour des raisons financières. C'est-à-dire que si tu n'as pas de vainqueur, si tu ne termines pas cette édition, tu fais une croix sur toute une année.
Les droits télé, il faut juste qu'ils se disent qu'ils sont tous clients de clients. C'est-à-dire qu'en réalité, les télés achètent des matchs, je le reconnais, mais avec l'argent des annonceurs d'une part et des abonnés d'autre part. Il faudrait juste savoir combien d'abonnés se sont désabonnés et qu'ensuite, au prorata, on dise « Ok, je veux bien ». Mais pour l'instant, il me semble que les télévisions n'ont pas eu tant de désabonnés que ça. Donc, à qui profite le bénéfice? Parce que du coup, que ce soit BeIN, RMC, Canal, tous ceux qui diffusent, n'ont plus d'équipe à déplacer sur le terrain, donc ils ont moins de frais. Alors que le client basique que je suis continue à être abonné et paye. Donc, l'argent continue à rentrer dans les caisses des télés.
Mais pas de l'UEFA.
Eh bien oui, ni de la Ligue nationale. Bon,
je ne vais pas non plus donner de l'argent à l'UEFA pour mon abonnement.
Alors que l'argent, la base continue à la donner aux télés parce qu'il n'y a pas eu de désabonnement. Quoi. Donc,
c'est une suggestion, c'est une bonne idée, mais elle est à creuser, effectivement.
Il faut savoir si on pourra voyager aussi.
C'est intéressant.
Il faut savoir si on pourra voyager aussi, parce que vous êtes bien gentil, mais on parle de rester chacun dans nos pays, donc pour aller jouer.
Merci Frédéric Guérin, merci. Ah. Et puis donnez-nous de bonnes nouvelles de Junior Sambia, bien sûr.
Voilà, je l'espère aussi.
C'est le principal, Merci à vous. Merci d'être intervenu dans On refait le match, 19h12.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Messieurs, 50 000 tests ont été commandés par la Ligue du football professionnel.
Oui, il y a des tests qui ont été commandés. Je vous dise quelque chose par rapport. On va avancer. On a entendu ce joueur et donc apparemment le club gère bien, mais il n'a pas pu parler aux autres joueurs.
De Sambia.
Il n'a pas pu parler aux autres joueurs. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans le calcio? Je ne plaisante pas. Avec Romelu Lukaku, il a annoncé qu'il y a 3 mois, ils ont eu un match et que pendant le match, un joueur qui est sorti qui était malade et qu'ils étaient tous malades le soir. Et on a fait silence radio. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à un moment, il y a vraiment aussi une transparence sur cela. C'est-à-dire qu'à un moment, les clubs ne nous cachent pas des choses. Je le dis parce que c'est important. Lukaku, je ne suis pas fan comme joueur. Il a eu le courage de le dire. Il s'est fait massacrer parce qu'il y a des droits. Il y a des droits d'argent, il y a des droits de télé et compagnie. Il n'a pas inventé comme les 23 à l'intérieur du Milan étaient malades.
Un joueur qui est malade, il y en a 23. Le coronavirus, a priori, ce n'est pas ça. Tu n'as pas 23 personnes.
Tu n'es pas médecin et moi non plus, mon cher David.
Il n'y a pas de cas de transmission immédiate comme ça.
David, le soir même, Il y en a un qui est sorti qui était malade. Le soir, ils avaient tous des nausées et il y a eu des cas chez eux, à l'Inter de Milan. Et maintenant, il se fait ramasser parce qu'il a ouvert sa bouche. Je pense très sincèrement.
Moi, je me méfie des raccourcis aussi, c'est tout.
Bah, écoute, le type, il a pas inventé. Il a peut-être pas inventé l'eau chaude. Il a peut-être pas fait Sciences Po alors chez Danone. Mais quelque part, il a eu les couronnes directes.
Bon, on avance. 50 000 tests commandés par la Ligue du football professionnel. Ça vous paraît. Ils sont commandés, ces tests?
Alors, le chiffre précis, je laisse cette information à nos amis du Parisien, qui sont toujours très bien informés. Je sais qu'il y a la volonté, ça c'est clair et net, elle a été exprimée, formulée auprès de tous les clubs de la part de la Ligue de s'occuper de la commande de tests. Bien entendu, si tout est validé, c'est-à-dire si le protocole, comme on l'a dit, médical est accepté, qu'il colle avec ce que le gouvernement va annoncer la semaine prochaine, si tout ça est acté, on va passer dans la phase de reprise. Action. Et cette phase de reprise, elle nécessite beaucoup de tests. Hein. Les Allemands les ont estimés à 20 000. Et là, manifestement, 50 000, ça paraît énorme. Mais en tout cas, la volonté de la Ligue, on ne peut pas leur en vouloir. C'est plutôt intelligent. C'est d'une part de faire une commande groupée pour avoir le plus de chances de les avoir, de les avoir en même temps pour que tout le monde, pour qu'il n'y ait pas des clubs qui soient lésés. Et que ce soit les mêmes tests, parce qu'on l'a bien vu avec l'affaire Junior Sambia qu'on vient d'expliquer.
Un coup négatif, un coup positif.
Non, mais même en milieu hospitalier, il peut y avoir des tests qui passent au travers. Donc il faut vraiment que ce soit les mêmes tests, et encore une fois pour
Philippe,
terminer,
on peut pas être
que ce soit les mêmes laboratoires qui soient en capacité d'analyser ces tests.
Florian Gazan.
Oui, et puis après déterminer le protocole, quand est-ce qu'on teste, qui on teste, jusqu'où on teste, il y a quand même beaucoup d'interrogations, parce que un match de football, c'est pas uniquement les joueurs sur le terrain, c'est tous les gens qui sont autour, tous les gens qui sont dans le stade, même si on est à huis clos, il y aura du monde. Donc jusqu'où on teste, et 50 000, ça paraît énorme, mais finalement c'est assez peu.
Mais c'est-à-dire aussi que... On voit que, et Bichente Lizarazu nous le disait la dernière fois, mais un footballeur, il a droit aussi d'exprimer, il doit exercer son métier. Hein, les footballeurs, oui, moi je veux bien, mais comme dans tous les autres métiers, il va falloir que ces tests soient faits et sont réalisés de manière équitable. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir à un moment qu'il y ait une équipe qui a X tests qui sont faits à Strasbourg et pas les mêmes tests.
On n'en est pas là, mais j'ai quand même vu des choses.
Il va falloir. Si, ça me paraît important.
D'accord, c'est intelligent ce que tu dis là, parce qu'effectivement, ça répond à une problématique depuis le début. Souvenez-vous, il y a des joueurs de l'équipe de France ou des stars étrangères qui ont eu des signes de maladies, de rhumes, de trucs, et qui immédiatement ont été testés. Sur le moment, ça avait choqué personne, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu des accès à ces tests. Et je peux vous dire qu'au sein de la fédération, c'est un message qui est transmis à l'ensemble des clubs de dire attention, ne tombez pas là-dedans, faites les choses dans un cadre général et justement uniformisé. Qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y ait des clubs ou des joueurs qui soient avantagé par rapport aux autres.
David Aiello, et ensuite on va reparler des choses du terrain, enfin du terrain virtuel pour l'instant. Hein. Par quoi on va redémarrer? Par le championnat de France ou la Coupe de France?
Il me semble que ce cadre là qu'évoquait Philippe à l'instant, il est indispensable, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on avance un petit peu, qu'on fait un petit pas, un tout petit pas en direction d'une reprise, il y a 10 000 questions qui apparaissent. Et
une solution génère des problèmes, en fait.
Voilà. À chaque fois, on se dit, non mais attendez, ok, on va reprendre de telle manière, mais ah oui, mais attendez, on n'avait pas pensé à ces questions. Et moi, j'ai l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir.
Les réseaux sociaux, une pause et ensuite, je vous poserai la question. Non pas la question qui fâche, mais la question la pragmatique, pour employer une expression à la mode. On commence par le championnat, les 10 dernières journées à purger, ou par la finale de la Coupe de France, cher à Noël Le Graët, les réseaux sociaux.
Sur le hashtag RTL Foot, notamment, un message de Patrick. 50 000 tests, c'est bien, mais le cas Junior Sambia doit servir de jurisprudence, de signal d'alarme pour ne pas se précipiter. Et puis, sur cette célèbre réunion entre les différents acteurs du football français, message de Nicolas. Quand je ferme les yeux, j'imagine la scène. Didier Quillot assis sur son grand bureau, qui regarde dans le vide. Nasser et Olas en train de s'engueuler. Noël Le Graët qui tente de les calmer. Il faudrait faire une série là-dessus, je suis sûr que ça marcherait.
On n'est pas tout à fait loin de la vérité, figurez-vous. Ouais, une page de publicité,
Nicolas.
Et ensuite, par quoi redémarrer? Les 10 dernières journées de championnat de cette saison ou par la finale de la Coupe de France? Projet vendu par Noël Le Graët, le président de la 3F. A tout de suite.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match depuis 18h30, plein d'encouragement à Robert Herbin. C'était l'ouverture de cette émission. De bonnes nouvelles, soyons prudents, mais de bonnes nouvelles visiblement pour Junior Sambia, joueur de Frédéric Guerra, agent de joueur qui est venu s'exprimer, et tant mieux, sur l'antenne de RTL. Et puis ensuite, on reprend évidemment le fil de cette émission. On fait le match avec les débats, le foot ou le foutoir. Question annexe, c'est qui le patron? Et d'une certaine façon, c'est qui le patron? Vous allez peut-être y répondre. Est-ce que c'est Didier Quillot qui va pouvoir caser ces 10 dernières journées de championnat dès que l'autorisation en sera donnée, encore une fois, par les autorités gouvernementales et par les autorités sanitaires? Restons encore une fois prudents. Donc Didier Quillot, les journées de championnat ou la finale de la Coupe de France, sa Coupe de France, Noël Le Graët qui tente de vendre son projet. C'est une belle idée.
Ah bah c'est une belle... Moi je suis un peu d'accord avec
la Coupe de la Ligue. Hein. La...
Ouais, je suis un peu d'accord avec Noël Le Graët, juste pour une raison. Il va falloir se repréparer. On en a déjà discuté tellement avec Vicente Lizarazu, refaire cette préparation.
Imaginons que les joueurs commencent à se repréparer.
Eh bien, je pense
mi-juin,
que,
finale de la Coupe de France.
Eh bien, je pense que les clubs concernés par la finale de la Coupe auront donc... Je ne serais pas bête de faire d'abord cette finale de Coupe pour pouvoir laisser du temps aux autres, une semaine en plus, de se préparer. Bon, c'est un avis personnel.
Mais on commence par la PSG Saint-Étienne, Florian Gazan.
Ben, ça me plairait, moi.
Mais je ne vois pas l'intérêt, en fait, de pourquoi avancer la Coupe de France, hormis pour des raisons d'être sûr de la diffuser par rapport à des intérêts de diffuseurs. Quel est l'intérêt ? Pourquoi on respecte pas le calendrier ? Pourquoi ? Alors, du coup, la Coupe de France, ça va devenir le trophée des champions. En fait, on va faire une sorte de match préparatoire, match amical avant de réattaquer la saison de Ligue 1.
Les symboles sont très importants, Florian. Les symboles.
Ouais, mais pas les symboles.
Christian, le symbole, c'est de redémarrer le foot et de rester dans une équité. L'équité,
et
c'est
la finale, c'est le foot, non ?
Oui, mais la finale a été calée après un certain nombre de journées de championnat. Pourquoi on reprend là, on a arrêté ?
Bah, j'ai peut-être une réponse pour toi, Flo.
Non, mais juste, on me dit, on fait la Coupe de France et on enchaîne la Coupe de la Ligue. Donc, en gros, le PSG, ils vont avoir 3 jours pour se remettre d'une première coupe et ils vont en jouer une autre.
Ils ont un gros effectif, c'est bien.
Mais c'est pas très équitable.
La Coupe de la Ligue, c'est moins sûr. Pour toi, Flo, par rapport à la question que tu poses, peut-être que c'est une manière aussi de sécuriser ces finales, parce que si on reprend la Ligue 1, on n'est pas sûr d'aller au bout non plus. Et de jouer les finales après. Peut-être qu'il y aura une deuxième vague. Et peut-être qu'on se dit, tiens, si on joue les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, au moins elles seront jouées. Je vous rappelle qu'il y a également un membre influent du football français, Jean-Michel Aulas, qui est impliqué dans une de ces finales. Coupe ça lui donne une possibilité de jouer une Coupe d'Europe, puisqu'on sait que via la finale qu'il a jouée, il peut se qualifier pour la Ligue Europa. Moi, c'est pas une hypothèse que je.
Non, c'est
pas une
réponse. C'est très vrai. D'un point de vue pragmatique, il vous aura pas échappé que ce que Noël Le Graët avait tout de suite déterminé quand la crise est arrivée, c'est que en cas de reprise, il voulait pas qu'on oublie les matchs de l'équipe de France, qui sont certes des matchs amicaux, mais qui font partie des dates internationales et qui, pour l'instant, on l'a vu sur les derniers développements de l'UEFA, seraient plutôt repoussés à l'après septembre. Donc, il a perdu ces deux matchs de l'équipe de France. Il va pas en plus s'asseoir sur sa finale de Coupe de France.
Ouais, sauf que les matchs, Philippe, sauf que les matchs de l'équipe de France, c'est pas vital. Quand je dis que
ça rapporte de l'argent, aussi,
ouais. Ça rapporte de l'argent pour la Fédé, mais ça peut se jouer après, puisque de toute façon l'euro est reporté. Que cette finale de coupe.
Mais c'est un équilibre général. C'est vrai que le bon sens est aussi de sécuriser les compétitions.
Bien sûr,
si on a déjà deux vainqueurs des deux coupes, on a deux qualifiés pour la saison prochaine. Et c'est un problème en moins parce qu'effectivement,
donc si on est pragmatique, c'est bien pour sécuriser les compétitions.
C'est que le championnat puisse reprendre, mais que s'il y a un cas, deux cas, une mise en quarantaine d'une équipe pour combien de temps le championnat il s'arrête tout de suite et on fait peut-être deux journées de trois.
Mais tu sécurises et tu laisses un peu de temps aux autres.
C'est la raison pour laquelle il faut sécuriser ce qui se termine. C'est pour ça que si on peut terminer deux coupes, ce sera déjà pas mal.
Et le dernier effet en plus, je pense que ça permet également à Noël Le Graët de reprendre quand même sa position de patron du football français parce qu'on l'a beaucoup dit jusqu'à présent.
Je pense qu'il ne l'a pas perdu ces dernières semaines.
Il ne l'a jamais perdu, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant, on voit que ça tire un petit peu dans tous les sens et lui, il arrive là en grand rassembleur.
Je vous annonce que j'ai la bonne idée. Noël Le Graët compte les coups, il va ramasser la mise, vous le dis.
Alors, il y a ces points de vue-là pour sécuriser Monsieur Le Graët. Florian, on n'est pas d'accord parce qu'il me dit ouais, mais Paris, ça c'est son petit cœur parisien. Il me dit Paris va il va être défavorisé. Je pense que franchement, Paris a un effectif lourd pour pouvoir jouer ces compétitions-là. Et je répète, et les préparateurs physiques vous diront le même, n'oubliez pas que Bichente et les autres spécialistes vous disent c'est minimum 4 à 5 semaines pour être en forme. Je pense que si tu peux gagner encore une dizaine de jours de préparation pour les autres équipes qui ne jouent pas ces finales.
Tu favorises les autres au détriment de Lyon, Saint-Étienne et Paris.
Bah, tu favorises. Okay, tu favorises. Les autres ont aussi des préparations. Bah, écoute, tu favorises, tu joues une finale. Non, mais alors, on ne fait plus rien.
Je vais aller au bout de ma mauvaise foi. Donc, d'accord. Quand on va jouer les coupes, les joueurs seront en phase de reprise, donc pas vraiment en forme. Donc, tu vas avoir deux matchs en bois pour des finales de
Avec coupe. Paris, tu auras des matchs en bois. Ça et tu sous-estimes fort tes joueurs.
Tu as fait des champions.
Florian Gazan, on m'éclate quand même. Florian, on m'éclate quand même. Paris, qui est quand même une équipe extraordinaire. Et donc, puisque je vais au bout de ton raisonnement, tu es en train de me dire que donc on va avoir un petit match parce que les joueurs de Paris sont des petits joueurs. Mais non, mais
Stéphane, je te rappelle qu'au football,
il y a deux équipes. Je sais, mon ami Florian. Je te chambre. Mais Paris est grand, Florian.
Paris, c'est tout le monde.
On fait comme si tout allait bien ou mieux, en tous les cas, à partir du 11 mai.
Faisons semblant.
Avec des entraînements, avec des tests, tout le monde est équipé, tout va bien, pas de cas positifs ou de nouveaux cas positifs, parce qu'ensuite, c'est arrêt buffet là aussi. J'aime bien cette expression. Arrêt buffet, reprise.
Aucun rapport avec l'ancienne ministre.
Elle adore ça, d'ailleurs.
On va y venir. Ne lui faites pas un mauvais procès d'intention.
Pas du tout.
Du tout.
Ah bah non, mais il parlait de Madame Buffet.
Soit posée.
Madame
Buffet. Ah oui, d'accord. Non, non, mais parce qu'on va parler de Roxana Maracineanu.
Ah non,
ah non. Mais dites-moi, championnat ou Coupe de France. Ok, on reprend la compétition. Mais si on reprend le championnat, il y a trois hypothèses. 27e journée, 28e journée, ou 28e journée avec des quotients.
Alors là.
Bah, oui, mais il faut bien se poser la question.
Moi, je veux bien faire pile ou face, mais il y a trois solutions, donc il faut une pièce à trois faces déjà.
Alors, si on arrête le championnat à la 27e journée, le PSG, Marseille disputeront la Ligue des Champions, Rennes le tour préliminaire, et si je ne dis pas de bêtises, Lille et Lyon.
En fait, il y a un cas de figure où c'est Lyon et Lille.
Laissez-moi terminer, Florian Gazan. 28e journée, le PSG, Marseille, Rennes, ce serait Lille et Reims. Donc Lyon sort du jeu. Et 28e journée avec quotient, ce serait le même cas de figure d'ailleurs, mais Lyon sortirait également.
Et Nice, vous avez oublié Nice avec Reims qui remonte également. Ouais.
Donc Jean-Michel Aulas qui fourbit ses armes et qui compte aller devant les tribunaux si c'est le cas. Hein.
Allait s'entendre, oui. Ouais.
Alors ce serait indécent. Je pense que dans cette conjoncture actuelle, moi j'aime beaucoup M. Aulas pour le président qu'il est, mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Un peu tout le monde. On l'a entendu tout à l'heure avec Baptiste, tout le monde se met sur la tronche, tout le monde, ça dure 4 heures les réunions. Je pense qu'il y a un moment, M. Aulas aussi va devoir faire des concessions.
Les places attribuées au mérite sportif réclamé par l'UEFA qui rejette la patate chaude.
C'est pas l'entouche. Bon. Hein.
C'est quoi le mérite sportif? C'est la première version, on arrête tout à la 27e journée, mais le PSG et Strasbourg n'ont pas joué un match en moins.
C'est la 28e journée. Cette 28e journée.
Oui. Alors, non, mais la 27e ou 28e journée. Pour moi, le plus équitable, c'est la solution au prorata. Parce que pour le coup, Strasbourg a joué contre Paris, donc on tient compte de son résultat moyen dans ce classement-là. Enfin, je trouve que c'est la moins mauvaise solution.
Mais dès
pour
que
avoir...
tu mets du calcul ou de la mathématique, est-ce que ça répond à des critères sportifs réclamés
par l'UEFA? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de, solution parfaite. Donc c'est la moins mauvaise. Avec le prorata, pour moi, c'est la moins mauvaise.
Donc on arrête à la 27e.
Oui. Pour moi, on arrête à la 28e avec le prorata.
Avec un match en moins pour le PSG Strasbourg.
Oui.
Mais Strasbourg avait gagné ce match.
Mais c'est ça.
Ça change le classement.
Et redevient européen.
Et si.
C'est pour ça qu'il fallait aller à la 28e avec prorata.
Faut arrêter
oui,
la
mais alors
7e.
Avec prorata et le quotient et donc de la mathématique et du calcul, on le voit pour le football amateur, ça crée aussi des injustices et on le verra avant la fin de cette émission.
C'est quoi le but, c'est l'éthique ou bien les mathématiciens?
Le prorata il sort pas de nulle part, il est basé sur les 27 journées précédentes.
Mais David, c'est quoi le souci, c'est d'être mathématicien ou bien d'aller sur l'éthique du sport?
Non, mais oui, mais aller sur l'éthique du sport, là où je rejoindrais David, c'est que tous les matchs qui ont été joués doivent être pris en compte. Je prenais l'exemple de Nice, il n'est pas anodin, l'exemple de Nice avec ce but de Dolberg à la dernière seconde qui permet aux Niçois de remporter cette victoire contre Monaco et qui leur permet de remonter justement. Je veux dire, c'est un sacré match, c'est une sacrée performance, on ne va pas l'enlever juste parce que d'un seul coup on retranche. Alors à ce moment-là, on peut retrancher d'autres journées, pourquoi pas.
Donc vous n'avez aucune opinion tranchée sur le sujet en vérité.
Moi j'arrête à la 27e.
27e pour Stéphane Powels.
Ouais. Donc le but de Dolberg, il n'a pas existé. La victoire de
avec
Nice
énormément
Monaco,
de respect du doux danois, mais j'arrête.
Ah ouais, mais t'es belge, t'aimes pas les Danois.
J'adore les Danois. J'aime beaucoup les Danoises.
Avec la 27e, on faisait l'économie d'un conflit avec Jean-Michel Aulas, je vous dis ça comme ça.
Ben voilà.
Donc on cède à la peur. Et vous avez vu que parallèlement, il y a l'attitude du président niçois qui annonçait, lui, que quelle que soit la méthode, et on rappelle qu'effectivement, il y a un des cas de figure où il pourrait être pénalisé. En tout cas, c'est ce qu'il annonce, et on peut lui faire confiance, il ne portera pas l'affaire devant les tribunaux.
C'est le cas de figure qui arrangerait l'Olympique Lyonnais, si on arrête tout à la 27e
journée.
On a deux
attitudes différentes, quand même, ça ne vous a pas échappé.
Pourquoi on n'organise pas une sorte de vote, en fait, où chaque président de club a une voix, et pourquoi on ne propose pas les trois solutions, il vote, et puis celle qui est majoritaire l'emporte. À un moment donné, c'est tout, voilà.
Est-ce que le mot démocratie fait partie de
chaque club a une voix, on donne trois solutions à un de
c'est pas bête.
Ça risque de se passer comme ça puisqu'à la fin c'est le bureau de la Ligue qui va voter.
Les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Absolument, toujours beaucoup de messages comme Léo tient sur les finales de coupe, le PSG ça va être comme Liverpool cet hiver, l'équipe A va jouer un match, l'équipe B l'autre, quoi qu'il arrive ça fera du temps de jeu pour mon joueur préféré Eric Maxime Choupo-Moting, message de Léo. Message d'Étienne également, s'il y a un premier sacrifice entre guillemets, c'est bien les coupes d'abord qu'il faut sacrifier. Pardon monsieur Le Graët, mais ce n'est pas le moment de montrer qu'on est le patron du foot. Et puis le message d'Adrien, j'ai pas fait maths sup ni maths spé, mais peu importe l'issue, il y aura de l'injustice. Tous les matchs joués pour moi déjà devront être pris en compte. Et le mérite sportif, pardon, mais c'est quoi? C'est l'équipe qui a fait le plus de petits ponts, qui a le plus transpiré. Pour moi, tout ça est absurde.
Vous savez, la vie est faite d'injustice. Il faut le savoir.
C'est beau.
La vie est faite d'injustice.
C'est beau.
Derrière la publicité, nous parlerons de l'UEFA qui fait profil bas, qui se planque un peu en vérité. Hein, L'UEFA. Oh, c'est, voilà, on voit ce qui se passe.
Fait un peu machine arrière.
J'aime bien votre côté patate chaude. C'est un petit peu ça. Au début, ils ont dit on va mettre des. On
ils ont montré les gros bras. Et puis
hop,
ils ont montré les gros bras parce que c'est la Belgique.
J'ai dit derrière la pub, les amis. Derrière la pub. On parlera de Roxana Maracineanu à nous également. Le sport n'est pas priorité. Est-ce qu'on lui ferait pas un faux procès?
Vous nagez en eau trouble.
On parlera du mercato également, parce que c'est un peu obscène là, de parler du mercato et des bonnes affaires à faire pendant la crise. Je pose la question.
Ça fait partie du foot.
Le football amateur est-il victime d'une injustice? On en parlera également. Les footballeurs dépressifs également. Soupe un peu du monde. La publicité.
RTL, on refait le match. Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La dernière demi-heure dont fait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, restez avec nous, avec David Aiello, Stéphane Poels, Florian Gazan, Philippe Sanfourche et vos messages sur le compte @RTLFoot relayé par Baptiste Durieux. Alors pourquoi l'UEFA ferait profil bas? Est-ce que l'UEFA ne se planque pas un peu désormais après avoir fait preuve de, allez, n'ayons pas peur des mots, un peu de cynisme et d'autoritarisme? Rappelez-vous, quand la fédération belge a voulu stopper son championnat, elle a été menacée, en tout cas ses clubs, d'exclusion des compétitions européennes. Sauf que là, maintenant, l'UEFA n'a pas véritablement la main. Qui a la main? Les gouvernements, à l'image des Pays-Bas. Là aussi, arrêt Buffet, championnat néerlandais. Mais ce n'est pas la fédération néerlandaise qui a pris la décision. C'est le gouvernement néerlandais. Mais c'est supranationalement, l'UEFA ne peut strictement rien dire.
Ils ne peuvent rien faire. C'est d'ailleurs pour ça, aux Pays-Bas, c'est classé. En Belgique, ça devrait déjà être classé. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce que le politique ne se mouille pas. Donc c'est reporté encore à une semaine. Et c'est ça, en fait. C'est que l'UEFA, en ce moment, ils sont pris dans une sale situation, quoi. Et c'est pour ça qu'ils bottent en touche, parce qu'ils ne peuvent pas se positionner. Ils ne veulent pas se positionner.
Ils ont été très maladroits dans la façon d'exprimer au départ leur désaccord sur cette décision, parce qu'ils ont eu peur de la traînée de poudre. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que la Belgique avait acté avant de pouvoir peut-être explorer toutes les possibilités.
Il faut expliquer aux auditeurs que donc la Belgique avait donc décidé et qu'ils ont fait les bras gras. L'UEFA a tapé sur la tête du président Mehdi Bayat en disant c'est nous qui décidons.
Et surtout, si vous continuez dans cette voie et que vous actez la fin du championnat alors qu'il n'est pas encore... toutes les solutions n'ont pas été envisagées, ça veut dire que vous déposez les armes avant tout le monde. Ça. Et donc, comme sanction, vous serez exclu des prochaines Coupes d'Europe.
Donc après le cynisme, l'autoritarisme, le pragmatisme...
Ils ont fait volte-face.
Oui, là, c'est le pragmatisme, manifestement, parce qu'ils savent bien qu'ils ne maîtrisent pas la situation et que, comme vous le disiez, ce sont les gouvernements qui vont prendre les décisions. Donc ils attendent et ils voient.
On sait qu'en ce moment, le patron du foot français, c'est Olivier Véran, hein, finalement. Non, mais c'est vrai, on dit Noël Levrette. Mais le patron du foot français, c'est Olivier Véran. Et dans chaque pays, c'est le ministre de la Santé, le patron.
Mais ce qui est difficile, je pense, pour l'UEFA aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être même d'admettre publiquement cette réalité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont dans l'attente des décisions gouvernementales et que publiquement, et je pense aussi d'une certaine manière économiquement vis-à-vis des diffuseurs, ils sont coincés, ils ne veulent pas montrer qu'en fait, ils ne maîtrisent rien.
Mais c'est beaucoup une question de pognon. On a bien vu que dans d'autres disciplines sportives, il y a des décisions qui ont été prises.
Ouais, mais après, pognon,
on l'a vu au basket, on l'a vu dans le hand.
Il y a un côté méprisant, enfin, il y a un côté c'est le fric qui gouverne et tout. Enfin, à un moment, tu vois, l'argent n'est pas sale.
J'aime bien l'argent, mais pas quand l'argent est autoritaire et écrasant. J'aime bien quand il y a un vrai partage. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il n'y a pas de partage dans le foot. On fait mourir le football amateur et qu'il n'y a que les riches qui veulent en profiter. Je n'aime pas ça. Il y a d'autres disciplines sportives où on a mis tout le monde autour de la table.
Il ne faut pas diaboliser l'argent dans le football. Je
ne diabolise pas, je dis que c'est un
fait. Redistribuer aussi à beaucoup.
C'est un fait de société. Redistribuer avec les copains. Et c'est souvent. Vous savez ce qu'on dit en ch'ti? On dit c'est tout dit les petits qu'on spotche. Eh bien, dans le sport, c'est ça. C'est souvent les petits qui, malheureusement. Écoutez, ce n'est pas du populisme, mais dans le football, c'est comme ça que ça se passe.
D'accord, mais c'est souvent le petit qui ferait quoi, ces petits?
Factuellement, le football en France, par exemple, paye énormément d'impôts. Donc, il y a une redistribution déjà au niveau de l'État. Et puis, il y a aussi, c'est un secteur économique, c'est un tissu économique, social. Il y a des clubs qui représentent plusieurs centaines de salariés et surtout qui font vivre par extension des milliers de gens.
Donc, mais pas qu'en pro, en amateur aussi. Dans le foot amateur aussi.
D'incidence sociale, pas que l'argent,
pas que
les voitures de sport.
Je ne suis pas d'accord. La répartition de l'argent, elle se fait à tous les étages. Et c'est souvent le plus petit qui n'est pas dans cette répartition d'argent et qui a encore beaucoup plus de grabuges et beaucoup plus de déficits aussi au niveau social. On en reparlera tout à l'heure avec le football amateur. Un petit club comme Saint-Priest, eh bien, c'est 23 salariés. Et donc, ça veut dire que si on n'aide pas ces clubs-là, ça fait aussi partie d'une animation économique.
Il faut aller chercher l'argent là où il est et il faut que les clubs professionnels puissent reprendre leur compétition, puissent générer de grosses recettes qui ensuite peuvent ruisseler. Sinon, ça ne marche pas.
Mon cher ami, dans le fonds d'urgence, hein, le fonds d'urgence qu'on donne pour sauver le football amateur,
C'est des choses différentes.
Attendez. On donne entre 12 et 15 millions d'euros. Le rugby prévoit 35 millions d'euros pour 1900 clubs. Et au football, il y a 15 000 clubs amateurs.
C'est pas
distribué. Ça veut dire que le football professionnel, ça veut dire que l'élite doit aussi à un moment avoir une réflexion que le partage soit mieux fait. Désolé de vous dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça ne profite qu'aux grands. Il y a que les grands qui veulent s'en sortir.
Écoutez,
vous me tendez une perche magnifique à 19h35. Nous avons organisé avec nos amis d'Odoxa le sondage, vous savez, hebdomadaire, Odoxa, RTL, Groupama, sur le sport professionnel. Est-ce qu'il doit faire sa révolution? Est-ce qu'il doit être plus vertueux? Et là, les Français sont comme Stéphane Powels, en vérité. Pour 79% des Français, le sport professionnel, dans sa globalité, hein, je ne parle pas que du football, doit profiter de la crise sanitaire pour changer. Solidarité avec le monde amateur, réclamée par 90% des Français. 89% des Français réclament une baisse des montants des transferts. 88% des Français réclament une baisse des salaires. Ils sont plus de 90% à attendre davantage de solidarité entre le sport professionnel, amateur et associatif. Ils sont 89% à souhaiter, je l'ai dit, une baisse des montants des transferts. Et voilà, je vous ai donné tous les chiffres.
C'est formidable votre sondage là. Faut tout redistribuer, même l'argent qui est pas à nous.
Qui nous a dit ça? Mais pourquoi verser dans la caricature en permanence sur ce sujet, dès que vous êtes en difficulté?
De quel droit 90% je ne suis pas du tout en difficulté. De quel droit 90% des gens estimeraient qu'il faut baisser les salaires dans une branche qui s'autofinance? Donc ça veut dire que demain, on peut faire un même sondage pour dire, est-ce que vous ne trouvez pas
que vous êtes sourd à la souffrance des gens, Philippe?
Non.
Est plus audible actuellement. Il y a un monde vertueux à retrouver. Je ne dis pas qu'il faut reconstituer les colcos et les sols. Non, ça, ce n'est pas. D'accord.
C'est sympa,
bien sûr.
Un univers
sportif.
Christian,
un peu plus
vertueux. Vous savez, on la pose encore une fois sur le football, et c'est pas sur le cinéma.
Je parle du sport.
Ces questions-là, les footballeurs sont pointés du doigt.
Vous savez, le problème quand on interroge des gens qui n'ont pas malheureusement toutes les clés pour répondre aux questions, c'est qu'ils ne se rendent pas compte des incidence de leur réponse. Ok, baissons les salaires, redistribuons. Alors du coup, on va avoir un niveau professionnel qui va baisser, on va avoir des clubs qui sont nuls, qui ne seront plus en Coupe d'Europe. Les gens diront « Ah là, c'est nul, je ne veux pas m'abonner, donc il n'y aura plus d'abonnement aux chaînes télé. » Enfin, les gens ne se rendent pas compte en fait. C'est facile de dire « Oui, ils sont trop payés, il y a ceci, cela. »
Je ne les prends pas pour des imbéciles,
mais les gens ne se rendent pas compte des incidences que cela aurait si ça se passait réellement.
Florian.
Et les gens seraient et finalement dire « Ah ben, peut-être j'aurais dû répondre le contraire parce que finalement, il est devenu très très nul ce championnat et je m'emmerde. »
Florian, on peut avoir un double discours, c'est-à-dire on peut avoir un discours intelligent et se dire aussi le football professionnel de très haut niveau doit exister. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Moi, je suis conscient de ça. Je dis simplement qu'il faut à un moment rééquilibrer. Est-ce que tu sais, mon cher Philippe, qu'on a fermé depuis les 4 dernières années, il y a 4000 clubs de foot amateurs qui sont morts. Donc ils se sont stoppés, ça veut dire une économie. C'est-à-dire que je pense que c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, il y a trop grand fossé entre le sport de haut niveau et le football amateur. Il faut essayer de rééquilibrer.
Là, tu repars sur la notion de redistribution.
Mais bien sûr, mais c'est ça l'essentiel.
La base. Et là, je te rejoins totalement.
Mais avec l'aide
là
du politique.
Là où je parle de démagogie, c'est sur les salaires des joueurs.
Ah, mais ça, d'autant que nous sommes d'accord.
Sur les salaires des sportifs professionnels, pardonnez-moi. Parmi l'ensemble des Français souhaitent une baisse des salaires, ils sont 91%. L'ensemble des Français. Amateurs de sport sont supérieurs, 93%.
D'accord, mais
ils sont lucides.
D'accord, ils sont peut-être lucides, mais est-ce que dans la même question, on leur demande, est-ce que vous seriez prêt pour cela à ce que le niveau global du championnat français, du football français, diminue?
Parce et qui est plus Neymar, qui est plus Mbappé, qui est plus tous ces
David,
joueurs.
Mais...
C'est toi qui vis au pays des bisounours, parce que justement, si on fait ça, si on pense local, sans avoir une révolution qui serait à minima européenne, c'est impossible. Parce que si nous, on fait ça tout seul de notre côté, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les Anglais vont continuer, eux, à payer des salaires incroyables aux joueurs, et la Ligue 1 va devenir le championnat d'Albanie.
Mon cher David, je ne vais pas faire du populisme à deux balles. On est dans une situation compliquée. voilà, économiquement parlant, avec tout ce qui se passe. C'est normal que monsieur et madame tout le monde...
Eh bien, on est là pour leur expliquer.
Eh bien, moi, je suis en train de t'expliquer que monsieur et madame tout le monde, ça me paraît logique que quand ils voient un Neymar qui fait n'importe quoi, qui a un salaire de dingue, qui se casse au Brésil et qui montre des attitudes qui sont pas très cohérentes, tu peux comprendre qu'une seule fois, monsieur et madame tout le monde te dise ils sont trop payés. Je te dis
alors
pas
là, je
que
crois
c'est
que tu
bien...
fais du populisme.
Ah ben, c'est du populisme. Eh bien,
je vais
eh bien, être... c'est alors, du populisme.
Je vais être aussi
caricatural
que toi.
Non, non, c'est du populisme.
Je vais dire qu'avec 60% des charges de ce que touche Neymar chaque mois, eh ben
mais
tu,
bien sûr.
Tu peux
mais bien sûr,
récupérer
tu vas jouer
un maximum d'argent,
mon cher Philippe.
Dans les caisses de l'État,
Philippe,
et tu peux distribuer des
Philippe,
des
j'avais pas fini. Philippe, j'avais
donc
pas fini.
C'est la même chose. C'est
j'avais
même
pas
façon
fini pour que j'avais pas fini pour que Florian me dise pas que je fais du populisme. C'est que cette attitude-là, eh bien forcément crée forcément un mauvais regard des gens de monsieur madame tout le monde. Moi ce qui me dérange pas, c'est qu'un joueur professionnel gagne très bien sa vie parce qu'il est doué, il a des qualités, mais qu'on reste dans de la mesure et ça devient démesuré. Et c'est ça qui dérange monsieur madame tout le monde, c'est que le football professionnel, ça devient des sommes incohérentes avec des attitudes incohérentes et que monsieur madame tout le monde n'accepte pas cela. C'est juste ça que je demande. Moi je comprends bien qu'un joueur de foot qui est doué gagne très bien sa vie, mais je veux qu'à un moment il y ait
une star du cinéma, ça dérange.
Et ben le cinéma, les chanteurs, tout le monde.
Mais est-ce que vous allez comparer, excusez-moi, Olivier Gourmet, magnifique comédien belge.
Lui,
il est payé un salaire. Il a un salaire raisonnable. Bah, est-ce que vous trouvez pour moi que Neymar a un salaire raisonnable?
Et ton ami Danny Boone, puisqu'on parle des ch'tis, ton ami Danny Boone, c'est combien il prend pour faire un film?
Danny Boone, il est français. Hein, il
oui,
est bah, de
mais tu parlais des ch'tis. C'est combien d'argent il prend pour faire un film?
Beaucoup d'argent.
Je crois qu'il est temps de.
Mais vous n'allez pas comparer Danny Boone avec Neymar quand même. Mais c'est surréaliste que j'entends. Écoutez, on l'a dit la semaine. On a dit
Leonardo DiCaprio avec Neymar.
On vous a expliqué la semaine dernière.
La question m'intéresse quand même, c'est-à-dire tu préfères qui, Danny Boone ou Neymar? Parce que
personnellement Danny Boone, mais juste pour vous expliquer,
très mauvais pied gauche, hein.
on l'a raconté la semaine dernière que le gros problème c'est cela. Je vais vous expliquer un truc, il y a des petits comédiens, puisque vous faites le parallèle, il y a des petits acteurs, des petits comédiens qui grattent pour pouvoir finir la fin de mois. Et bien moi je vais vous dire un truc, dans le foot il y a des joueurs qui sont des mauvais, des moyens et qui gagnent quand même 15 à 20 000 euros par mois,
d'accord.
Et c'est là que ça ne va pas,
que Danny Boone finance le théâtre amateur régional.
Messieurs, d'accord. Avant de parler du football amateur, je voulais également qu'on évoque et du mercato peut-être, mais enfin bon, oui. En même temps, vous avez vu, les Français ont livré leur verdict. Roxana Mara signé à nous cette semaine, le sport n'est pas prioritaire aujourd'hui dans les décisions qui sont prises par le gouvernement.
Bah, c'est normal, elle a raison.
On est bien d'accord.
Ce qui prime, c'est le sanitaire, c'est la santé.
Est-ce que c'est à elle de le dire ?
Petit problème de communication ?
Comment est-ce qu'on peut accuser Roxana Maracineanu, qui est en plus une ancienne sportive, de dire que le sport n'est pas important dans la vie, dans la société? Franchement, elle est bien placée pour savoir que c'est important. Après,
on est d'accord.
La raison, c'est que le sport, non, n'est pas plus important que le cinéma, que limite plus important les bars, les restaurants, parce que là, pour le coup, il y a vraiment de la casse. Enfin, c'est le sanitaire le plus important, pas le sport.
Il aurait peut-être simplement fallu ajouter, pas prioritaire pour le gouvernement, mais on s'emploie à pouvoir être opérationnel.
C'est juste que c'est peut-être un petit peu maladroit de sa part. À elle de dire ça.
Effectivement.
Parce qu'on attend peut-être que les acteurs du sport attendent peut-être
Qu'on allume Madame la ministre quand elle nous explique. Non mais moi je te le dis, qu'on allume Madame la ministre quand elle nous dit qu'un Tour de France il pourrait se faire à huis clos. Je suis d'accord. Mais ici l'allumer pour ça, je trouve que c'est gratuit. Je pense qu'elle.
On est d'accord.
Je pense que son discours était cohérent.
C'est un peu maladroit.
Je suis assez d'accord. Et surtout, il faut essayer de gratter un petit peu et de se dire pourquoi est-ce qu'elle en arrive à dire des choses comme ça. C'est tout simplement qu'aujourd'hui c'est un vrai débat qui existe au sein du gouvernement français. C'est que la question du sport est loin d'être prioritaire, mais elle a été débattue parmi tant d'autres, et qu'au sein même de l'exécutif français, il y a dissonance entre des ministres importants, au sein même du plus haut sommet de l'État, de M. Macron et M. Édouard Philippe, il y a des voix dissonantes. Il y en a certains qui disent « Oui, le sport est partie intégrante du tissu social, il faut que ça reprenne très vite et que ça fasse partie des choses sur lesquelles on mise pour une société qui repart de plus belle. » Et d'autres qui disent « Vous nous emmerdez avec ça et on verra dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. »
Et
pour
je
l'instant,
puis vous assurer que ça travaille et ça phosphore quand même au ministère, puisque nous avons d'ailleurs donné en début de semaine quelques informations en avant-première sur l'idée de pouvoir remettre, de tenter de pouvoir remettre un calendrier à partir de mi-juin, avec également les Français qui puissent marcher, faire du vélo, etc. Mais tout cela est assujetti aussi aux conditions sanitaires. Mais donc, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été échangées, beaucoup de prises de décisions échangées avec le pouvoir sportif, le mouvement sportif. Et donc, ensuite, effectivement, il y a l'administration sanitaire qui va se positionner, mais ça travaille du côté du ministère des Sports. Et je vais même aller plus loin. Quand Roxana Maracineanu nous dit « Si le tour n'avait pas eu lieu, ce ne serait pas la fin du monde », je vais vous dire, et je vais me fâcher avec mes amis du Tour de France.
J'en suis à mon 34e Tour de France. Mais bien sûr que ce ne serait pas la fin du monde. Ce serait très ennuyeux pour l'écosystème du vélo. Ça oui, parce qu'en France, il y a 500 personnes qui travaillent les vélos, ouais. Les équipes, des administratifs, des gens qu'on voit moins dans des emplois obscurs, justement. Hein. Ce serait beaucoup plus ennuyeux, effectivement, pour ce petit écosystème. Mais très franchement, bien sûr que, d'abord, littéralement, ce ne serait pas la fin du monde et que les organisateurs s'en remettraient. Vous savez, je vais recevoir des messages et des coups de téléphone. Hein. Mais ouais. Effectivement, alors après, c'est peut-être dit de façon un tout petit peu maladroite d'ajouter une virgule et de préciser mais on s'emploie.
Mais elles disent que beaucoup voilà. De Français pensent.
Oui, mais alors est-ce que les
après ça a été par ailleurs ça a été un peu dit mais c'était un peu aussi comme d'habitude sorti du contexte.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ouais, c'est ça. Ouais. On a beau aimer le vélo mais il faut comprendre que c'est pas la priorité.
Les réseaux sociaux, une page de pub et le foot amateur ensuite ou un peu de mercato également parce que j'ai posé une question qui vous a fait sursauter tout
un
à l'heure.
Un peu d'argent pour Stéphane.
Baptiste Durieux.
Ça du vieux pays de Goldorak.
Beaucoup de messages messieurs sur le débat des salaires notamment message de Bastien nos impôts ne vont pas dans les salaires des joueurs jusqu'à nouvel ordre. Par contre leur salaire ils vont bien, eux, dans les caisses de l'État. Je n'en peux plus des débats sur les salaires des footballeurs. Par contre, les stars, que les stars fassent des passes décisives au foot amateur, ça, c'est très bien. Et puis, le message de Quentin, il y en a un qui est au-dessus de Roxana, de la Fédération, de la Ligue, de l'UEFA, au-dessus de Ronaldo et de Messi. C'est le virus. C'est lui qui décidera. La ministre fait preuve d'humilité et de réalisme.
Mais bien sûr, et c'est la vérité. Voilà. Allez, 19h46, la publicité, ensuite le mercato pendant la crise, les grandes manœuvres. Le football amateur est-il victime d'une injustice et les footballeurs dépressifs? C'est ce que j'ai lu cette semaine dans la presse. Publicité.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Les 13 dernières minutes dont on fait le match en compagnie de David Aiello, Stéphane Poels, Florian Gazan, Philippe Sanfourche. Vos messages très nombreux relayés par Baptiste Durieux, le compte @RTLFoot. Avant le foot amateur est-il victime d'une injustice? C'est l'une des nombreuses questions d'un contenu riche en actualité football ce soir. Un petit mot sur le mercato, messieurs. Est-ce que vous vous rappelez que c'était l'une de mes questions la semaine dernière à propos Kamavinga. J'ai un trou de mémoire. Je vous avais posé la question de savoir si un transfert au Real Madrid serait quelque chose de possible. Vous m'aviez rayonné sans distance sanitaire. Hein. J'en ai pris
les positions. J'en ai pas de souvenir, moi.
Il a aussi des problèmes de mémoire.
Sur le montant, éventuellement, on n'était pas d'accord, mais pas sur le fait qu'il puisse partir.
Alors, non seulement c'est dans les tuyaux, mais il faudra peut-être mettre un petit peu plus que 50 millions.
Oui, ça me semblait peu, moi, 50 millions.
On parle plutôt de 70.
Bah oui, c'est ça. Ça me paraît plus proche de la réalité. Quand même, c'est un joueur avec un fort potentiel. Tout le monde le sait. Un joueur en plus qui aura une grande valeur à une éventuelle revente, puisqu'il est très très jeune, donc ça s'est intégré dans le prix. Et puis
énormément prouvé en club. Hein,
voilà, qui a prouvé en club.
Il y a énormément. C'est ironique.
Non, mais attendez.
Et surtout à ce poste-là, les milieux de terrain jeunes potentiels, il y en a pas tant que ça.
Est-ce que ce serait le bon choix pour Kamavinga?
Non, je pense que c'était de l'ironie du copain Lavitz. Je pense que peut-être qu'on peut le vendre, mais en le laissant encore un an à Rennes. Moi, je le laisserai encore jouer un an. Il a fait combien de grands matchs? 10? Il a fait quoi? 10, 15 grands matchs?
Une bonne quinzaine.
Bah oui, une quinzaine. Et donc ça vaut 70 millions au Real. À un moment, peut-être, de l'acheter, et peut, dans un an, il y va. C'est trop tôt. Il y en a plein de joueurs.
Tu connais le foot depuis longtemps, et Dieu sait que tu as été dans la partie, et quand tu vois jouer. Ce gamin,
c'est un super joueur.
Moi, je veux dire, il y a des joueurs comme ça. Je me souviens la première fois que j'ai vu jouer Varane avec Lens au Parc des Princes en coupe.
J'ai dit,
qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre?
Kamavinga,
quand je l'ai vu contre le PSG, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? C'est délirant,
Le poste, comme l'a dit Florian, c'est un meilleur récupérateur. Il faut aussi pouvoir muscler son jeu à ce poste-là. Moi, je l'ai trouvé très élégant, très footballeur. Mais en termes de muscler les jeux, c'est pas encore Patrick Vieira.
Avec toi, c'est qu'il c'est manque encore, Vieira, à mon avis, une bonne, voire deux belles saisons en Ligue 1 à très haut niveau.
Nous
si Rennes, comme ça semble se profiler, navigue désormais entre la deuxième et la quatrième place régulièrement, pourquoi pas
une bonne saison à Rennes et puis il peut partir avec déjà une option d'achat.
Ça peut se régler, il peut déjà avoir tout ficelé sur une saison de transition.
Malgré sa jeunesse, la question de savoir où est-ce qu'il va apprendre le plus vite maintenant et sous les ordres de qui, Julien Stéphan à Rennes ou Zinedine Zidane au Real Madrid?
Non, mais après, il y a quand même une véritable inconnue sur sa capacité à franchir ce cap. Parce que jouer à Rennes et jouer au Real, ça ne vous a pas échappé, ce n'est pas exactement la même chose. Donc,
ouais, moi, puis tu n'es pas sûr de jouer, c'est ça que tu dis.
Tu n'es pas sûr de jouer. Donc moi, effectivement, je serais d'avis qu'il reste un petit peu encore à Rennes. Il est quand même extrêmement jeune.
Stéphane l'aime bien, il est comme il est. Mais M. Stéphane le gère bien. lui donne du temps de jeu, est capable de lui faire des remontrances. C'est une autre gestion humaine d'un jeune joueur qu'à Madrid.
C'est pas le même vestiaire.
Zinedine Zidane, il a une pression médiatique, il doit gagner. Et si le gamin il fait deux mauvais matchs, il va se retrouver sur le banc. À Rennes, s'il fait un mauvais match, il va jouer.
Ça ferait pas 3 ou 4 ans qu'on cherche une sentinelle au PSG aussi.
Florian Gazan, est-ce que le Stade Rennais n'aurait pas intérêt à attendre de voir s'il jouera la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe?
Non, mais ils ont de toute manière intérêt à le garder. Financièrement, ils n'ont pas forcément besoin de le vendre. Le faire continuer à grandir, profiter pour peut-être gagner des titres et des choses avec un joueur comme ça, quand même un joueur plus. Et puis pourquoi pas une étape intermédiaire avant d'aller au Real Madrid, comme on l'a vu pour Mbappé, pas forcément Paris, mais Paris ou Lyon, un plus gros club.
Je prends le Philippe Sanfourche.
C'est une étape intermédiaire. Il n'a que 17 ans. Il peut encore.
Une étape intermédiaire sous le Real Madrid.
Changer de club, mais rester.
Aujourd'hui, non, c'est factuel.
Les amis, ma question, il y a Pogba également au Real Madrid, on en parle en tous les cas. Est-ce que c'est,
ils vont tout acheter le Real Madrid
la crise,
avec alors vous.
Justement, voilà, on répond très court. Est-ce que c'est obscène pendant la crise? Là, on parle déjà gros sous, transfert.
Non, c'est pas obscène, là, on va pas faire la fine bouche, ça fait partie du milieu du foot, il y a des transferts qui vont se faire. Et certainement, ces clubs-là, vous savez, je suis cruel, mais ces clubs-là, le virus, ça n'impacte pas leur gestion des clubs.
Hein, il faut bien bosser.
Il faut bien bosser.
Souvenons-nous que le Real, après avoir fait sa passe de 3 fantastique et engrangé des centaines de millions d'euros, n'a pas totalement cassé la tirelire. Il y a eu l'achat d'Eden Hazard, point à la ligne. Donc il reste beaucoup de sous dans les caisses.
Oh, ils ont acheté beaucoup quand même, les Rodrigo et compagnie, ils ont dépensé beaucoup. Hein, Savic.
Pas tant que ça. Hein. Mais il n'y a pas eu d'énormes transferts. Tu vois,
les réseaux sociaux.
Beaucoup de messages sur Camavinga, notamment Maximilien. Il faut une étape intermédiaire pour Camavinga, comme disait Florian. Elle passe par une prolongation de contrat à Rennes, puis un départ dans un très bon club, mais pas le Real. Comme Ousmane Dembélé à Dortmund, nous dit Maximilien. Message de Johan. Pardon, mais Toni Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, on en fait quoi? Laissez Camavinga là où il est, il a le temps de grandir. Les spéculations sur les transferts, ça sonne faux. Les rumeurs, les trucs, les machins, stop aujourd'hui, c'est impossible à entendre.
Le football amateur est-il victime d'une injustice? Football amateur, est-ce que c'est du football amateur?
On en a parlé
amateur
déjà pas mal. Hein.
Oui, mais on va en parler jusqu'à 19h avec un invité, avec Romain Reynaud, qui est l'entraîneur du club des Hauts-Lyonnais, qui évolue en National 3. Bonsoir Romain Reynaud.
Bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir,
bienvenue dans Refait le match.
Alors
d'abord, National 3, est-ce que c'est amateur?
Oui, c'est amateur. Après, c'est... Il y a beaucoup de concessions que font les joueurs, donc on va dire que c'est semi-professionnel dans l'investissement des joueurs.
Je résume, votre club réunit 4 communes, vous êtes leader avec...
5
communes?
Oui.
Vous êtes leader avec Rumilly, c'est bien cela?
Oui.
Égalité parfaite sur les différences de buts particulières et générales, on est d'accord?
Oui.
Meilleure attaque au bénéfice de votre équipe, on est d'accord?
Oui.
Mais un quotient, le quotient cher à David Aiello pour le football professionnel se met en place... Et finalement, vous ratez la montée en division supérieure au bénéfice de Rumi. Expliquez-nous pourquoi.
Eh ben pourquoi, je ne sais pas. C'est bien pour ça. Après, la seule chose qu'on sait, c'est que le jeudi, ils ont arrêté les championnats en stipulant que les classements étaient arrêtés à ce jour-là et qu'en cas d'égalité, c'est le règlement dans la compétition qui faisait foi. C'est la seule chose qui nous fait monter. Et après, il y a eu une règle qui a été pointue, on va dire, entre samedi et dimanche, en disant que, en fait, Rumilly avait un match de plus que nous à l'extérieur. Et voilà, c'est pour ça qu'ils nous volent, enfin, ils nous volent. Ils montent à notre place à l'heure qu'il est.
Mais est-ce que vous savez si cette règle pondue, comme vous dites, entre le vendredi et le samedi ou le samedi et le dimanche, ne concerne que votre club ou un nombre de clubs encore non identifiés dans l'univers amateur?
Eh bien, c'est ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a un seul cas en France, c'est nous. Et actuellement, encore une fois, sur les classements actuels de la fédération ou les différentes ligues, au Lyonnais est premier. Donc, ça sera la première fois dans l'histoire du foot que le deuxième montera la place du premier.
Alors, au-delà de cette injustice, si elle est avérée, il va évidemment falloir vérifier tout cela, voir les textes. Vous allez aller devant les tribunaux? Comment ça va se passer?
Notre président a pris une avocate parisienne, là, justement, pour avoir des explications au niveau de la fédération. Et ensuite, on va saisir le CNOS dans les jours qui arrivent.
Romain, on ne va pas tourner autour du pot, puisque Christian Olivier vient de le dire, vous êtes le seul cas en France. Vous sentez, on parle d'injustice, ça c'est tes propos, mais est-ce que tu penses qu'il y a eu quelque part une attitude nauséabonde qui a fait que c'est tombé sur votre tête ou pas ?
Et pour quelle raison surtout ?
Et pour quelle raison ?
Enfin, on ne veut pas rentrer dans.
Non, mais il ne faut pas faire de la langue de bois si tu viens sur RTL, pour expliquer.
Je suis d'accord, sauf que oui, c'est là notre interrogation aujourd'hui, c'est que pourquoi créer une loi pour un seul cas en France ? On crée une loi quand il y a 12 cas, 13 cas, 15 cas peut-être, mais là il y a un seul cas en France et c'est nous, alors que si ça avait été la dernière journée du championnat, c'est nous qui montions et terminé, quoi.
Bon.
C'est particulier.
On va essayer de faire aussi notre métier. Bien sûr. Donne la parole, on va essayer de vérifier tout cela. Alors, évidemment, parce que au niveau des injustices,
j'ai eu quelques retours de la part de la fédération en entrant dans cette émission. Donc je ne connais pas précisément ce cas-là, mais ce qui est certain, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les classements, quels qu'ils soient, ne seront définitifs et entérinés que dans 15 jours. Donc aujourd'hui, on ne parle pas dans le vide, mais je veux dire, il n'y a rien qui est acté. Ce sera acté dans 15 jours. Manifestement, d'après ce qu'on me dit, il y a bon nombre de réserves qu'il va falloir traiter, donc peut-être d'autres cas, mais il y a d'autres réserves,
ça, quantité de réserves. Je le confirme.
Voilà. Et après, bah, effectivement, le principe du COEF, manifestement, il a l'air d'être acté. Il va y avoir coefficient quant à nécessité de regarder des matchs joués plus nombreux que d'autres. À l'extérieur, ça, je n'ai pas ce détail-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout n'est pas gravé dans le marbre. Ouais, il va se passer encore un petit peu de temps.
Oui,
Romain ? Non, bien sûr que ce n'est pas définitif, mais forcément, avec cette loi du COMEX qui est sortie samedi soir, je crois, ça stipule bien que c'est Rumilly, puisqu'ils ont un match de plus à l'extérieur. Après, de mettre l'avantage sur les clubs qui jouent à l'extérieur, peut-être, mais sauf que nous, on n'a fait qu'une confrontation contre Rumilly et c'était chez eux.
Bon. Donc, ce qui est dur humainement, en dehors de c'est qu'il y a un travail qui a été fait sportivement toute l'année et que les mecs sont déçus, je présume. C'est ça, Romain, aussi. C'est qu'est-ce que ça va changer pour vous économiquement ou sportivement ?
En quelques secondes.
Il y a plein de choses qui vont changer. Déjà, c'est tout l'investissement depuis le 10 juillet de l'année dernière où on s'investit chaque seconde. On pense à ça tous les jours. Et moi, si mes joueurs, aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation de monter en National 2 alors qu'on a fait la saison qu'il fallait faire, je ne sais pas comment je vais les récupérer. Et même moi, j'ai pris un gros coup, dans la gueule, c'est le dimanche matin en lisant ça, parce que c'est tout un travail d'une année qui s'envole pour, encore une fois, une loi pondue de nulle part, quoi.
Romain Reynaud, le coach des Hauts-Lyonnais, en tous les cas, club de National 3, on va suivre cela, évidemment, Romain, de très très près, bien évidemment, mais dans les divisions inférieures, alors dans les équipes, les championnats de district, etc., je peux vous dire que beaucoup de clubs sont également victimes de ce genre d'injustice, car les classements sont pondérés, et il y a beaucoup de clubs, vraiment, alors là, très 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 amateurs, qui souhaitent aller devant les tribunaux, et il est question, je vous livre cette information, que le ministère des Sports, via le Premier ministre, prenne une ordonnance, justement, pour se protéger de tous les recours qui seraient à venir. C'est une information RTL qu'on a donnée en début de semaine dernière également, mais il est possible qu'une ordonnance soit mise en place pour balayer tous les recours possibles et imaginables.
Oui, mais ça je comprends, mais après, on est vraiment le seul cas, parce qu'il y a des clubs qui sont greffés à nous pour dire que c'est pas normal ou quoi que ce soit, mais nous, c'est vraiment un règlement qui a du début de saison.
On a bien
ça veut dire que le règlement, c'est le règlement, c'est comme si, enfin, je sais pas, on change de règlement
bien
après une course automobile, on dit bah non, t'es arrivé premier, bah finalement.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'on veut se défendre et se faire entendre, et voilà quoi.
Et on va vérifier tout cela. Merci d'être intervenu en tous les cas, Romain Reynaud, l'entraîneur des Hauts-Lyonnais, club de National 3 qui se vit victime d'une injustice. On va vérifier tout cela, bien évidemment.
C'est merci. Vous lui avez pas dit à lui, la vie est faite d'injustice.
Parfois. Bon, merci Philippe Sanfour de terminer sur cette note bienveillante. Je vous remercie vraiment. Vous m'avez gâché mon dimanche, on en reparlera la vidéo conférence. Merci Philippe Sanfour.
La grande famille du foot.
Merci. Merci Florian Gazan.
Merci.
Bon dimanche. Merci David Ayello.
Merci.
Sans patate.
Encore un petit message peut-être, Baptiste Durieux.
Oui, un peu consensuel, message de Nathan. Il ne faut pas parler de football et à côté de football amateur, il faut parler de football pour tous et appliquer donc la même règle pour tous.
Merci Baptiste. Merci Daniel à la réalisation également. Et merci à vous tous de nous avoir suivis, bien évidemment. À samedi prochain pour un nouveau On refait le match, 18h30-20h. Mais dès demain, 19h30-20h, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France, à la présentation Isabelle Langer. Très bonne soirée à l'écoute de RTL.